Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Les mouvements ecclésiaux rassemblés à Rome autour du Saint-Père pour la fête de la Pentecôte dans le cadre de l'année de la foi. Italie, Argentine, Bélarus, Brésil, Congo, France, Allemagne, Inde, ils sont venus des cinq continents. Le choix de la Pentecôte illustre l'action de l'Esprit-Saint dans la naissance de ces mouvements au sein de l'Église. Angela Merkel est convaincue que l'Église catholique a un rôle à jouer en Europe. Elle a été reçue par le pape François ce samedi matin. Elle a reconnu que la politique ne pouvait pas à elle seule assurer les fonds de la société. La France est devenue le 9e pays européen et le 14e dans le monde à autoriser le mariage entre personnes de même sexe. Les opposants à la loi Taubira ne baissent pas les bras pour autant. Ils ont réaffirmé que leur détermination ne faiblirait pas. Et en fin d'émission, ne manquez pas nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Mouvements ecclésiaux, nouvelles communautés, associations de laïcs ont convergé vers Rome pour célébrer la Pentecôte avec le pape François. Cette initiative a été voulue et organisée par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Samedi matin, les quelques 120 000 participants appartenant à 150 mouvements se sont rendus en pèlerinage sur la tombe de Saint-Pierre. Xavier Sartre est allé à leur rencontre. Reportage.
Je suis Chiara, je suis ici avec le mouvement Missione Belém. Notre mission et notre travail est avec le peuple qui s'encontre dans la rue. Et c'est une occasion très joyeuse de sentir que nous sommes une unité entre les différences. Et les charismes sont différents, mais nous pouvons travailler pour l'Église.
Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre avec le pape?
Principalement, la grâce de l'Esprit-Saint et de pouvoir obtenir la force de le Saint-Esprit. Écouter l'Esprit-Saint sera un moment très, très fort pour tous.
Je m'appelle Christina Pitt du mouvement Communion et Libération. J'habite à Fribourg en Suisse. Vivre sa foi, c'est vivre tout simplement, c'est dire merci à la vie, dire merci aux gens. Soyons ensemble dans la joie et puis essayons d'aimer les autres, même ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions ou les mêmes valeurs, de leur dire mais ça vaut la peine de rencontrer le Seigneur à travers, dans la vie quotidienne, à travers les amis, à travers les mouvements. Tout le monde est bienvenu avec ce pape. Nous invitons nos amis, nos collègues, nos familles, nos parents, simplement à venir avec nous. Viens et suis-moi, en leur disant « mais ça vaut la peine de vivre, sa foi, ça rend heureux, ça ne coupe pas les jambes. » Et pour tout affronter, les difficultés, les drames de la vie, mais aussi toutes les beautés. Et puis, on n'a pas un message évangélisateur vivant, c'est comment on vit nous-mêmes et comment on parle avec ses collègues, avec ses amis, ses voisins. Et s'ils sont frappés par ce qu'on vit, ils le verront sur nos visages, sur notre joie.
Les participants se sont retrouvés en début d'après-midi sur la place Saint-Pierre pour un moment de réflexion, de prière et de fête et pour entendre des témoignages de conversion ou d'engagement dans l'Église. Un service de traduction en langue des signes a été offert pour les non-voyants et des mesures ont été mises en place pour permettre la participation des handicapés. Parmi les intervenants, le chirurgien pakistanais Paul Bhatti, frère du ministre assassiné Shahbaz Bhatti et chef de l'Alliance pour toutes les minorités du Pakistan. Le Saint-Père les a rejoints en début de soirée pour la veillée, marquée par l'intronisation de l'image de la Vierge Salue du peuple romain, vénérée à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Dimanche matin, le Saint-Père présidera une messe solennelle à partir de 10h30, toujours sur la place Saint-Pierre. Il concélébrera avec 70 cardinaux et évêques et 400 prêtres. « Ce rassemblement, la fête de la Pentecôte, constitue la première rencontre du nouveau pape avec les mouvements ecclésiaux. Jean-Paul II les avait lui aussi rencontrés à la veille de la Pentecôte, les encourageant à être des signes d'espérance pour le bien de l'Église et des hommes, tout comme Benoît XVI qui les avait invités à être des écoles de liberté, de cette liberté véritable, non celle d'esclaves, mais celle des héritiers, la liberté des fils de Dieu. François Mogg, docteur en théologie, enseigne l'ecclésiologie à l'Institut catholique de Paris. Il est également directeur de l'Institut supérieur de pastorale catéchétique. Il met l'accent sur la vitalité des mouvements ecclésiaux.
Les mouvements ecclésiaux constituent ce qu'on appelle la structure associative de l'Église. Ils ont donc une importance tout à fait particulière parce que ce sont eux qui assument la mission de porter l'Évangile au plus près des réalités du monde. Alors ils ont un rôle important en termes de vitalité de l'Église, évidemment, puisque l'histoire nous a montré que c'est toujours par des mouvements ecclésiaux que l'Église s'est renouvelée dans sa force de proposition de l'Évangile. Leur contribution à la vie de l'Église, c'est celle d'une interface entre les réalités sociales et culturelles et l'Évangile que l'Église a mission d'annoncer, de célébrer et de vivre. Et cette interface, ils en assument le rôle, d'une part en étant ceux qui portent l'Évangile comme force de transformation au plus près des réalités du monde, et d'autre part comme ceux qui permettent à l'Église d'être également irriguée par ces réalités des hommes et des femmes à qui l'Église a mission d'annoncer l'Évangile.
Peut-on considérer que l'une de leurs particularités est une interaction entre laïcs, prêtres et personnes consacrées ?
On peut effectivement considérer cela parce que les mouvements ecclésiaux, alors dans l'immense diversité de ce qu'ils représentent, sont souvent précisément des lieux où il y a une interaction, alors pas forcément à trois termes, mais au moins à deux, entre des fidèles laïcs et des prêtres, des fidèles laïcs et des religieux ou religieuses. Et donc, il y a là un véritable laboratoire pour la vie de l'Église. Ça, c'est tout à fait évident. Ce qu'il est important de souligner, c'est que au cœur de l'année de la foi, les mouvements ecclésiaux sont clairement des acteurs majeurs de l'évangélisation dans le sens où ils sont en permanence une réponse offerte au monde à la question comment l'évangile permet de vivre une vie d'homme.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. La chancelière allemande Angela Merkel a été reçue ce samedi matin au Vatican à l'occasion d'une visite éclair dans la péninsule. Elle a pu s'entretenir en privé pour la première fois avec le pape François, qu'elle avait cependant déjà salué le 19 mars. Angela Merkel avait en effet participé à la messe d'inauguration du nouveau pontificat aux côtés de quelques 130 délégations de chefs d'État et de gouvernement et avait pu féliciter le successeur de Benoît XVI dans la basilique Saint-Pierre. Ce samedi matin, l'entretien s'est déroulé en présence d'un interprète et a duré 45 minutes environ. Antonino Gallofaro.
Au mois de mars, Angela Merkel avait salué le style du nouveau pape qui s'adresse très directement aux personnes dans une langue compréhensible et simple. Son entretien privé samedi matin dans la bibliothèque du Palais apostolique a confirmé son impression. Le pape François, a-t-elle dit devant la presse, nous rappelle que l'Église ne doit pas se replier sur elle-même, mais aller vers les autres pour les aider à s'ouvrir au christianisme. Ces entretiens au Vatican ont permis d'aborder des thèmes d'intérêt commun comme la situation sociale, politique, économique et religieuse en Europe et dans le monde. Il a été question en particulier de la défense des droits de l'homme, des persécutions contre les chrétiens, de la liberté religieuse et de la collaboration internationale en faveur de la paix. Cette rencontre aura aussi permis un échange de vues sur l'Europe en tant que communauté de valeurs et sur sa responsabilité dans le monde. Le développement, indique un communiqué du Saint-Siège, doit se fonder sur la dignité de la personne et s'inspirer des principes de subsidiarité et de solidarité. Le pape François estime que le monde a besoin d'une Europe forte et juste. Un point de vue qu'Angela Merkel juge encourageant.
En France, la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe a été promulguée par le président François Hollande et publiée samedi au Journal officiel. Vendredi, le Conseil constitutionnel avait validé entièrement cette loi après 4 mois de batailles parlementaires et de manifestations. Le Conseil des sages avait été saisi le 23 avril dernier par les députés et sénateurs de l'opposition qui avaient déposé de nombreux recours. Dans un communiqué, le délégué général d'Alliance Vita, Tugdual Joël Derville, un des porte-parole du collectif La Manif pour tous, affirme que la validation de la loi Taubira ouvre la voie à l'injustice et renforce la détermination des opposants à lutter contre une loi qui blesse les fondements de la démocratie en portant atteinte aux droits des plus fragiles, à savoir les enfants. Une nouvelle manifestation nationale contre le mariage pour tous est prévue le 26 mai. Une mobilisation que les évêques soutiennent. Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre et président du Conseil Famille et Société à la Conférence des évêques de France, nous le disait hier.
La mobilisation doit continuer, non pas sur le terrain politique, puisque un chrétien doit accepter dans un espace démocratique que la loi ne soit pas l'exact reflet de ses convictions. La mobilisation, elle doit se poursuivre sur le terrain de l'anthropologie. Il y a une vision chrétienne de l'homme qu'il faut continuer à promouvoir, pas simplement en manifestant ou par des discours, mais aussi par le témoignage de vie auprès des autres. Et puis, il y a une mobilisation éthique, une éthique qui est éclairée par l'Évangile.
Monseigneur Brunin, évêque du Havre. Toujours en France, les parents de Vincent Lambert ont réussi à bloquer par voie de justice l'euthanasie passive de leur fils, décidée par les médecins en accord avec son épouse. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint l'hôpital de Reims de rétablir l'alimentation et l'hydratation normale de cet homme de 37 ans, plongé dans un état de conscience minimale depuis un accident en 2008. Cette décision, une première, met en évidence la complexité d'une procédure délicate. Suite à cette affaire, le député Jean Leonetti, auteur de la loi de 2005 sur la fin de vie, a plaidé à nouveau pour un renforcement des directives anticipées. L'équipe médicale a exprimé sa vive contrariété. John Bradburn, le vagabond de Dieu, a reçu le Grand Prix catholique de la littérature. C'est le livre que nous propose Catherine Aubin cette semaine. L'auteur, Didier Rance, y parle d'un homme étonnant, pèlerin, vagabond, un fou de Dieu, qui a fini sa vie en martyr, assassiné en 1979, alors qu'il vivait avec les lépreux au cœur de l'Afrique. Historien de formation, ordonné diacre de rite byzantin, tertiaire franciscain comme son héros, Didier Rance a parcouru l'Europe et l'Afrique pour écrire ce livre. Il va nous dire comment il a rencontré cette personnalité fascinante et la façon dont ce troubadour du Seigneur avait trouvé enfin son lieu au milieu des plus abandonnés et marginalisés.
C'est en 1983 qu'il est entré dans ma vie parce que je travaillais pour l'aide à l'église en détresse et j'ai fait une action pour la léproserie où il a vécu. Et en remerciement, on m'a envoyé une page sur lui. Ouais, c'était pas beaucoup, mais la page m'a déjà tellement frappé que j'ai voulu en connaître plus. Et puis je me suis toujours intéressé à lui. Et puis après avoir travaillé pour l'AED, quand je suis arrivé à l'âge de la retraite, tout simplement, je suis allé voir l'association Bradburn, qui est très vivante en Angleterre, et je leur ai dit, vous devez bien avoir une biographie que je vais traduire en français pour le faire connaître chez nous. Et ils m'ont dit, non, nous n'avons pas de biographie, hélas. Alors là, je me suis souvenu que mon premier métier, c'était historien. Et je leur ai dit, pourquoi pas. Et donc j'ai écrit cette biographie en français d'abord, et elle est en cours de traduction.
Quand vous avez écrit cette biographie, vous le dites dans votre introduction, il y a beaucoup de points communs entre John Bradburn et vous. Il y a les lépreux, il y a l'Afrique.
Oui, il est en Afrique australe, donc ce qui est alors s'appelle alors la Rhodésie, aujourd'hui le Zimbabwe. En fait, il y part parce que il a toujours pensé que sa vocation, c'était d'être ermite, et puis il n'y arrive jamais. Il y a toujours des gens qui viennent le voir, tout ça. Alors il écrit un de ses amis jésuites qui est missionnaire en Rhodésie, il dit « Trouve-moi une grotte où là je puisse être tranquille pour prier ». Son ami pense que c'est comme un peu dommage, et en fait de grotte, il le fait venir en Afrique, mais dans des missions franciscaines. John est un grand dévot de Saint-François. Là, comme d'ailleurs avant il a fait quelques 60 métiers en 25 ans, c'est pour dire, les choses ne passent pas exactement comme on le souhaiterait, parce qu'il est plein de bonne volonté, mais quasiment tout rate, il met du diesel au mètre de l'essence, il s'égare dans la brousse. Enfin bref, on ne sait pas très bien que faire de lui. Et puis un jour, presque par hasard, il visite un campement de lépreux. C'est le moment où la lèpre a été bloquée avec les nouveaux médicaments. Et c'est une léproserie de 2000 lépreux. On en a renvoyé 1800 chez eux. Puis il y a 200 qui n'ont pas de famille, qui sont restés là. Et 6 ans après, il y a déjà plus de la moitié qui sont morts parce que tout le monde est indifférent. On les laisse, voire on les maltraite. Et quand John arrive pour donner une idée de ce qu'il voit, il ne voit pas les visages des lépreux. Ceux-ci ont un sac sur la tête parce qu'ils ne sont pas beaux, on lui dit. Alors là, John explose. Il dit, mais c'est pas possible que ça existe, ça. Et il décide, après avoir fait ce qu'il a fait toute sa vie pour les choses importantes, c'est-à-dire après avoir récité un « Je vous salue Marie » et avoir tiré à pile ou face, il décide de rester et de vivre avec ses lépreux. En fait, il s'installe avec les lépreux dans ce qui est un mouroir, en disant finalement dans ma vie, moi je suis plutôt un marginal, eux on les a complètement marginalisés, donc on devrait pouvoir s'entendre. Il ne connaît pas un mot sur la médecine, comme il dit, je n'ai jamais été Boy Scout, même si son oncle s'appelait Baden Powell, et il se passe là comme une espèce de miracle. C'est-à-dire que d'un seul coup, les lépreux arrêtent de mourir. Et en quelques semaines, ce lieu de tristesse, de ténèbres, devient un lieu de joie. La recette, elle est toute simple. C'est que pour John, chaque lépreux n'est pas d'abord un lépreux, mais c'est d'abord quelqu'un, un homme, une femme, avec une vie, avec une beauté qu'il va découvrir très vite. Et comme c'est un grand poète, c'est le plus grand poète anglais du XXe siècle, il a écrit quelques 200 000 vers. Et il écrit des vers magnifiques sur chacun des lépreux, et puis là, le courant passe.
Didier Rance, interrogé par sœur Catherine Aubin. Il a été volontaire dans le tiers-monde et directeur de la fondation Aide à l'Église en détresse. Il est aussi l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, notamment sur les martyrs de notre temps. Et c'est l'heure de retrouver, comme chaque semaine, le père Pascal Montavis pour le commentaire de l'évangile du 19 mai, dimanche de Pentecôte. C'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 15 et 16, 23b à 26. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout.
En ce jour de Pentecôte, nous faisons mémoire du don de l'Esprit-Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême et de notre confirmation. C'est un jour de grâce où nous pouvons demander au Seigneur une nouvelle effusion du Saint-Esprit. L'Évangile nous parle de l'action de ce don de Dieu dans notre vie. L'Esprit-Saint est notre défenseur, il est aussi un esprit de vérité et un esprit qui enseigne. Voyons cela plus en détail. L'Esprit-Saint est notre défenseur, en grec « parakletos ». Ce mot signifie aussi « avocat ». Si l'Esprit-Saint est avocat, c'est parce que le diable est accusateur. Dans l'Apocalypse, saint Jean appelle le diable « l'accusateur de nos frères ». Pour mieux comprendre qui est l'Esprit-Saint défenseur, avocat, il est bon de se rappeler d'autres paroles de Jésus. « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Nous pouvons parfois nous sentir condamnés, jugés. Ce qui entraîne la tristesse, voire même le désespoir. Lorsque cette tristesse vient de repentir sincère de nos fautes, alors elle est salutaire, elle nous conduit humblement vers la miséricorde de Dieu. Mais cette tristesse peut aussi venir du diable qui nous accuse et cherche à mettre la division en nous et autour de nous. C'est alors que l'Esprit-Saint défenseur est à nos côtés pour nous rappeler que la bonne nouvelle de Jésus est une bonne nouvelle de salut. Jésus a pris chair de la Vierge Marie afin que tous les hommes soient sauvés. Ce que Jésus veut, c'est notre salut. Mais le démon cherche à nous en éloigner, en nous accusant, en plongeant nos cœurs dans la tristesse. L'Esprit-Saint défenseur, au contraire, nous remplit de joie, car il est effusion de l'amour sauveur de Jésus. L'Esprit-Saint est un esprit de vérité. Jésus dit un peu plus loin dans l'Évangile selon saint Jean, « Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. » L'Esprit de vérité est celui qui progressivement porte à la lumière tous les aspects de notre vie. La conversion est un chemin dans lequel nous marchons difficilement. Parfois, nous avons l'impression de stagner, voire même de retourner en arrière. Sans l'Esprit-Saint, il est vrai que nous ne pouvons pas avancer dans les choix de lumière que nous sommes appelés à faire. C'est au-delà de nos capacités. L'Esprit de vérité est donc aussi un esprit de force qui nous permet de rester fidèles au commandement de Jésus, d'être toujours vrai dans notre engagement. Enfin, l'Esprit-Saint nous enseigne tout. Cela renvoie aux dons spirituels de sagesse et d'intelligence. L'Esprit Saint nous élève au-delà des choses terrestres pour contempler l'intelligence de la foi. Notre foi demeure un mystère. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour la vivre. Par exemple, lorsque nous allons nous confesser, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour voir, au-delà du prêtre qui est présent, la miséricorde même de Dieu qui se donne. Ou encore, lors de l'Eucharistie, c'est l'Esprit Saint qui nous fait discerner dans un morceau de pain le corps et l'âme du Christ ressuscité. En ce jour de Pentecôte, Jésus lui-même nous dit qu'il priera son Père afin qu'il nous envoie l'Esprit Saint. Ouvrons donc nos cœurs afin que ce don que le Père désire tant nous donner trouve en nous un réceptacle accueillant.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez suivre les célébrations présidées par le pape François en audio et vidéo avec commentaires en français sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va. Bon dimanche à tous.